Un geste de solidarité, s'il vous plaît, avec les grévistes qui sont pas payés. Il est au chaud.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec du son, du sens et le mois de mai qui continue.
En direct du studio 511, alors que le temps vire à l'orage, une émission cataphile réalisée par Céline Hila, assistée de June Loper avec Pierre Faucillon à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, la marée monte sur tous les fronts. À Rennes, un collectif de paysans manifeste pour dénoncer le poids des normes en agriculture qui font disparaître les petites fermes et ne protègent que la santé des industriels. Pendant qu'à Paris, la grève prend racine sous terre aussi, avec les agents des catacombes qui s'organisent pour améliorer leurs conditions de travail.
La normalisation du boulon de 13, c'est super, parce que tous les écrous vont sur la tige filetée. Mais la normalisation de la tome de loust, eh ben, c'est merdique, parce qu'il n'y a pas deux tomes de loust pareil. Quoi. La vie, ça se normalise pas. Quoi.
Par cet escalier étroit en colimaçon, vous avez donc quitté la ville et le monde des vivants. Et vous vous êtes glissé sans même vous en apercevoir dans le ventre de la capitale.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Je sais, vous allez dire encore des gens pas contents. Et c'est vrai que voilà plusieurs semaines que l'on vous fait entendre l'écho des mobilisations qui courent contre des réformes au pas de course. Des foyers de lutte contre la résignation à l'ère du temps. Cet ère du temps dont on pouvait trouver cette semaine un parfait résumé au salon de la start-up Vivatech. Avec un petit bijou de nouvelles technologies, l'entretien d'embauche avec un recruteur virtuel piloté par algorithme qui permet d'optimiser la présélection des candidats. Voilà un avenir radieux pour les 50% de lycéens déjà recalés par l'algorithme de sélection Parcoursup. Comme ceux qui ont déjà passé 48 heures de garde à vue cette semaine, après avoir voulu tenir une AG dans le lycée Arago de Paris, traités comme des black blocs pour décourager toute velléité de recommencer. Et pour ceux qui ne sauraient pas canaliser leur colère, il reste à méditer cette phrase du président ce mardi.
Il n'y a pas que le gouvernement, vous savez. Quand ça marche pas, c'est parfois aussi la faute des maires, c'est parfois aussi la faute de la dynamique du quartier ou des habitants. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont pour l'autoflagellation. Nous, on est là depuis un an. Ceux qui n'ont pas réussi depuis 20 ans, c'est pas ma faute, hein.
Alors passe l'omission de son rôle de conseiller du précédent président, notre actuel président, oubliez juste de rappeler qu'il en fut aussi ministre de l'économie. Mais ça n'a sans doute rien à voir, c'est pas de sa faute si ça va pas. Mais pendant que les premiers de cordée fixent l'horizon, toi Antoine, tu allais retrouver ceux qui triment sous terre au milieu des ossements.
Oui, le personnel des catacombes est en grève. Depuis le 3 mai, la grève prend racine donc sous la terre, joli mois de mai.
Avant d'aller retrouver les soutiers sous terre, un petit tour avec ceux qui veulent vivre de la terre, tout simplement, Charlotte. Et là aussi, ils doivent faire face à un rouleau compresseur.
Les normes administratives qui, au nom de bons sentiments, comme la protection de l'environnement, le bien-être animal ou la santé des consommateurs, écrasent les petits paysans et protègent surtout la santé des industriels. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, 250 exploitations agricoles disparaissent chaque semaine en France. En 20 ans, leur nombre a diminué de moitié. Et en Bretagne, première région d'élevage en France, c'est une ferme sur cinq qui aura disparu d'ici 10 ans, essentiellement des petites exploitations au profit de mastodontes industriels. Alors un an après la mort de Jérôme Laronze, ce paysan de 37 ans, abattu par les gendarmes en Saône-et-Loire, suite à un contrôle vétérinaire qui a mal tourné, nous vous en avions parlé, le collectif Hors Normes de Bretagne, qui s'est créé en réaction à la mort de ce paysan, a décidé de lui rendre hommage en occupant les locaux de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population, les ex-services vétérinaires qui opèrent ces contrôles. Une cinquantaine de personnes s'étaient donc rassemblées vendredi 18 mai à Rennes pour contrôler les contrôleurs.
Alors jusqu'à
des exploitations qui ferment, des champs qui disparaissent.
Les premières victimes, ce sont les petites et moyennes exploitations.
Ces 15 dernières années, la disparition du tiers des exploitations a permis aux autres de s'agrandir.
Qui dit baisse des exploitations, dit baisse aussi du nombre d'agriculteurs.
Une étude de l'Institut National de Veille Sanitaire met une nouvelle fois en lumière l'enfer que vivent les hommes de la terre.
Nous subissons au quotidien de fortes pressions administratives, financières et sanitaires. Notre souci du travail bien fait est remis en cause chaque jour.
Ras-le-bol des normes administratives contraignantes.
Quand on a un élevage d'œufs, on doit maintenant avoir une calibreuse à œufs qui coûte 50 000 euros pour pouvoir vendre nos œufs sur le marché. Mais merde, quoi!
Ils poussent les gens à bout. était éleveuse de chèvres et de brebis en agriculture biologique, a subi 4 contrôles différents cette année.
Et sous couvert d'écologie ou d'autres choses, les normes, elles servent avant tout à faire disparaître les petits paysans.
Certains, même pour faire plaisir aux agriculteurs, disent que oui, on va vous supprimer toutes ces normes qu'on vous a mises. Non.
Les fermetures d'exploitation se confirment et s'accélèrent.
Le samedi 20 mai 2017, après une traque de 9 jours, Jérôme Larose, éleveur à Trivi, a été abattu de 3 balles par les gendarmes dans des conditions révoltantes.
Il peinait à satisfaire les normes sanitaires et subissait depuis 3 ans des contrôles à répétition.
C'est au cours d'un contrôle sanitaire auquel il avait refusé de se soumettre qu'il avait pris la fuite.
Comme un bruit qui court !
Aucune situation d'irrégularité administrative en agriculture ne peut justifier qu'un paysan soit abattu comme un criminel.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Vonctil,
hashtag comme un bruit !
Chronique et état d'âme ruraux de Jérôme Larose.
Nous avons toujours une vache à soigner, une terre à labourer, de l'orge à moissonner, une vigne à tailler, une prairie à faucher et des fruits à cueillir. Alors la paperasse, elle attend. Parce que dans l'ordre naturel des choses, le superflu ne commande pas au vital. Les lois naturelles, nous y sommes tous les jours soumis. Et quand on vit dans une république hors sol, qui ne cesse de vouloir les transgresser, ben vous pouvez me croire qu'on fait un putain de grand écart.
Vendredi 18 mai, il est 8h30 du matin, on est à Rennes, il y a une cinquantaine de personnes qui sont réunies. Ça va faire bientôt un an que Jérôme Larose a été abattu par les gendarmes en Saône-et-Loire. Et aujourd'hui, le collectif Hors Normes de Bretagne ont décidé d'aller occuper les services vétérinaires pour dénoncer l'abus de normes et de contrôles. Il y a quoi dans le camion du coup ?
Il y a
des orties, du purin d'ortie, des choses. Bah, le purin d'ortie, c'est illégal par exemple. C'est une belle bêtise parce que c'est un super engrais, c'est plein d'azote, c'est génial. Et puis bah, il y a une échelle pour mettre la banderole sur le toit. Et puis des ronces, quoi, ouais, en hommage à Jérôme Laronce. Voilà, c'est une plante difficile à enlever.
Qu'est-ce qui va se passer là ce matin ?
Eh ben, on est parti pour contrôler les contrôleurs en fait. C'est un peu l'idée.
On y va peut-être ou...
Brave Bretagne, direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt. DDCSPP, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Bonjour.
Bonjour.
Pour rendre hommage à Jérôme Larose, l'éleveur qui a été assassiné en Saône-et-Loire il y a un an, suite au harcèlement de la DDCSPP sur sa ferme. Du coup, s'il y a un directeur dans la boîte.
Madame Farge qui arrive là.
Bureau 111 à 127.
Allons-y.
Allons-y.
On va au
premier
étage, au bureau.
Au
bureau.
Attendez
un petit peu.
Allez, c'est parti, premier étage. Service vétérinaire, sécurité et qualité sanitaire, alimentation.
Inspectrice ICPE élevage, inspecteur ICPE élevage. Donc vous opérez les contrôles dans les fermes en personne.
Oui, alors justement, on va...
Vous êtes sur le point d'y aller ?
Alors pas forcément en contrôle, mais on va sur une exploitation.
D'accord, et... vous allez où ?
Ah ben, je vais pas vous dire.
Non, mais parce que nous, on doit répondre à vos questions quand vous venez à la maison. Du coup, pour une fois, les rôles s'inversent, vous voyez ? On peut discuter 5 minutes.
Non, parce qu'on a rendez-vous justement.
Vous avez rendez-vous. En retard. Vous voyez bien dans nos métiers où on est tout seul, chez nous, à la ferme.
Vous avez
la force de votre côté.
Est-ce qu'on peut parler un peu des contrôles, justement? Il y a une vraie tension, une vraie pression autour de ces contrôles.
Nous, on n'a jamais entendu, on n'a pas de soucis dans le genre de nos interventions. Ne rajoutez pas de la tension où il n'y en a pas. C'est ce que vous faites.
Il y en a de la tension pour nous parce qu'on est soumis à des normes.
Vous êtes à bout, là, vous, personnellement.
On est soumis à des normes industrielles. Quand on a un élevage d'œufs, on doit maintenant avoir une calibreuse à œufs qui coûte 50 000 euros pour pouvoir vendre nos œufs sur le marché. Mais merde, quoi! Et alors, on fait quoi, là? On fait quoi, nous? Oui, forcément que l'idée nous vient de vous les balancer, les œufs, à un moment.
Mais nous, on ne fait qu'appliquer la réglementation. On ne fait pas la réglementation, non?
Alors, très bien. Alors, vous ne faites pas la réglementation. Très bien.
Il faudrait qu'on voudrait sortir du bureau.
Ne me poussez pas, vous me poussez pas.
Mais vous nous en allez.
Allez.
Je vous
donne un questionnaire. C'est pour vous. Oui, mais c'est pas le service, c'est pas vous. Et vous êtes salarié et vous avez quand même aussi le droit d'exprimer comment vous vous sentez dans votre travail.
Prenez ça.
Prenez le. 5 minutes, quoi.
Mais non, mais vous savez.
Vous ne vous présentez pas, on ne sait pas qui vous êtes.
On aura plein de contrôles, mais bien sûr.
Vous avez vu nous, non?
C'est comme ça que ça se passe.
Bien sûr que ça se passe comme ça.
Vous appelez les gendarmes. Vous appelez les gendarmes quand vous avez un problème, c'est ça, en fait?
Bien sûr.
Vous allez nous laisser passer parce que...
Nathalie.
Certains, même pour faire plaisir aux agriculteurs, disent « Oui, on va vous supprimer toutes ces normes qu'on vous a mis. » Non.
À tous ces petits morceaux qu'on retrouve étalés dans les rayons de supermarché, à tous ces corps sans cou qui n'ont jamais appris à se tenir debout, être sorti de l'œuf sans avoir vu le jour, pour finir sous plastique en promotion du jour. Ils sont loin les plaisirs de la tendre basse-cour.
Non.
À la santé des poulets morts. À la santé des poulets morts. On ne parle pas des gardiens de la paix. La chanson serait trop longue et il faudrait la recommencer. Mais maintenant qu'on en parle, on peut pas s'empêcher de crier mort aux vaches et à bas la sécurité. Quand elle n'est qu'au service de ce putain de progrès qui calcule notre bonheur en termes de productivité, en nous prenant pour les poulets qui ne font que ce qu'on leur dit de faire de peur de rôtir en enfer. À la santé des poulets morts.
Comme un bruit qui court.
À la santé des poulets morts.
Sur France Inter.
Une grande banderole qui a été installée. L'État élimine les agriculteurs. Jérôme Laronze, abattu par les gendarmes après des années de harcèlement administratif. Fond jaune fluo, les normes ne protègent que la santé des industriels.
Ça n'empêche ni le cheval dans les lasagnes, ni la listeria dans le lait en poudre. Lactalis, ils avaient tout bon, hein, ils avaient vert au niveau de la DSV. Hein. Sauf que derrière, c'était tout faux. Quoi. C'est pour ça qu'on a écrit que les normes ne protègent que la santé des industriels.
Vous appelez comment?
Moi, je m'appelle René Sonnet.
Vous êtes éleveur?
Moi, je suis éleveur, oui.
Pourquoi vous êtes venu, du coup, vous, ce matin?
Pour montrer à l'administration que non seulement on n'est plus dupe de toutes ces histoires de traçabilité, de qualité, de gestion par les normes, la vie ça se normalise pas quoi. Et c'est ce à quoi s'attachent ces deux organismes, la DRAF et puis la DDCSPP, c'est la normalisation de la vie. Et nous on dénonce ça, on n'en veut pas quoi. On discutait tout à l'heure avec le secrétaire général et c'était assez marrant parce que on en a chié un peu pour passer la fiche parce qu'il y a des
banderoles.
Ouais, là, voilà la banderole, parce qu'en fait, il y a des limiteurs d'ouverture des fenêtres. Et on en est arrivé à la conclusion que le bien-être des salariés au bureau, en fait, c'est de ne pas avoir la possibilité de se suicider, quoi. Et c'est une norme, hein, donc il nous a donc dit c'est la nouvelle norme de bien-être des salariés. Voilà, c'est contre ça qu'on se bat, parce qu'un beau jour, on met des boucles électroniques aux brebis, et un autre jour, eh ben, on va vous mettre des limiteurs d'ouverture à vos fenêtres pour pas que vous vous suicidiez, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, quoi. Et on a l'impression que de plus en plus, les normes, au nom du bien-être, au nom de la qualité, au nom de l'environnement, au nom de tous ces bons sentiments, eh ben, sont là pour faire la place pour les industriels et dégager tous les petits, tous ceux qui ne sont pas d'accord, tous ceux qui n'ont pas les moyens non plus, quoi.
Il y a certaines normes que vous avez refusé d'appliquer ?
On a refusé de présenter un plan prévisionnel de fumeurs. C'est l'engrais qu'on amène à une culture. Et donc, il y a une méthode scientifique qui est imposée par l'administration, dans l'idée finalement de lutter contre les algues vertes et contre les problèmes de nitrate. En théorie, c'est super, c'est scientifique, ça marche nickel. Sauf que dans les faits, on s'aperçoit que 2017, c'est la plus grosse année d'échouage d'algues vertes qu'il y ait jamais eu. Ça fait 10 ans qu'on fait des plans de fumeurs. C'est totalement faux, quoi. Parce que dans la pratique, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on utilise ce qu'on appelle les engrais de ferme, donc du fumier, du lisier, eh ben, la normalisation, elle n'est pas possible de ces produits. C'est extrêmement difficile de savoir la quantité d'azote qu'il y a dans un mètre cube de fumier, parce qu'il n'y a rien de plus différent d'un mètre cube de fumier qu'un autre mètre cube de fumier. Donc en fait, c'est toute une somme d'approximations qui passe un temps infini à l'exploitant, tant et si bien que pour finir, eh ben, c'est des prestataires de services qui remplissent ces plans, qui répondent totalement aux exigences. Donc ils ont tous les faux papiers en règle. Je dis tous les faux papiers parce que en fait ça ne correspondra pas à la réalité pratiquée par le paysan, mais par contre en règle parce que ça correspond à la demande des services vétérinaires. Quoi. Voilà, c'est plus d'une demi-journée en fait de calculs fastidieux qui correspondent pas à la réalité. Donc maintenant on refuse et là on est en attente des sanctions de l'administration. On ne sait pas exactement ce qui va se passer.
Donc, je cherche ceux qui contrôlent les paysans.
Là, il y a ce qui est derrière ici, c'est eux et moi.
Ah, bon, c'est eux et moi, c'est bon.
Bonjour,
est-ce que tu as le questionnaire?
Bien sûr, c'est une enquête de satisfaction professionnelle. Alors, le questionnaire qui suit est à remplir avec la plus grande attention. Une réponse affirmative, même isolée, est un indicateur à ne pas négliger et doit engager une procédure de signalement par la voie hiérarchique. Une prise en charge vous sera proposée autoritairement dans un délai inférieur à 1 an, 6 mois et 2 semaines. C'est à peu près. Suivant la directive 1615 CCE, La possibilité de remplir ce questionnaire vous est offerte aujourd'hui pour profiter de la présence dans vos locaux de délégués qui pourront exceptionnellement et tout spécialement pour les agents de la DDCSPP procéder à l'enregistrement immédiat de vos réclamations et en fonction de l'avancement de votre prise de conscience de votre démission. Alors, question numéro 1. Je ne vois pas de lien entre l'encadrement de plus en plus d'activités par les procédures de la DDCSPP et la disparition des paysans. Est-ce que vous voyez ? Je peux vous en prendre un clé ?
Alors, moi, jusqu'à présent, s'il y a la disparition d'agriculteurs, c'est qu'ils sont mal rémunérés. On est bien d'accord. Nous, on ne fait pas les prix du marché.
D'accord. C'est pas l'oppression administrative ?
Non.
Vous ne pensez pas ça ?
Non.
Voilà. C'est eux qui répondent aux questions.
Alors, question numéro 2. Donc, je me mets à votre place. Hein. Je n'ai jamais le sentiment de ne pas participer à une froide mécanique rongeant ce qu'il reste de vivant.
Non.
Non. Là. Alors, question numéro 3. Je ne me rends pas compte que je gagne un salaire en contrôlant des individus pas très enthousiastes de mon expertise.
Si, je me rends bien compte que vous n'êtes pas enthousiaste du tout de nous avoir. Maintenant, nous, on n'a pas le choix. C'est une réglementation européenne qui nous impose de faire des contrôles.
On n'a jamais le choix. Enfin, si, on a le choix quand même.
Non.
Bah si, on a toujours le choix.
J'ai pas le choix. C'est mon métier, je dois faire les contrôles. Si je ne fais pas les contrôles, je ne fais pas mon métier.
Ok, donc il n'y a pas de remise en cause du bien fondé de votre métier.
Question numéro 4. Je ne trouve pas étrange qu'en prétendant défendre les petits paysans qui font correctement leur travail, il ne reste que des usines de production animale.
Alors est-ce que vous déjà vous prétendez défendre les petits paysans ?
On applique la même réglementation pour tout le monde. Après.
Non mais ça pose question quand même.
Le directeur est arrivé, donc si vous souhaitez avoir le meilleur des choses.
Le meilleur des choses. C'est pas sympa pour vous, parce que là on discute calmement. Enfin voilà,
Je me suis entretenu avec un certain nombre d'entre vous en bas. Les questions partent sur un certain nombre de sujets qui concernent les différents services. Après,
Ces subventions publiques octroyées par les politiques européennes, elles visent absolument pas à maintenir une petite vie paysanne qui serait menacée par la concurrence des monopoles. C'est justement ça qui l'entretient, parce que cette concurrence, elle est nourrie par les politiques de subvention qui sont telles qu'elles sont construites.
Non.
Une bureaucratie, il y a toujours un responsable au-dessus de soi et on est toujours innocent. Et c'est comme ça que des bureaucraties peuvent broyer des vies humaines.
Justement, vous parlez de personnes humaines, mais en fait, si vous êtes une personne humaine, prenez du recul.
Bah non, plus de bureaucrate. En fait, ça se passe très bien sans bureaucrate. Force est de constater que les gens sans bureaucratie ont des capacités à s'auto-organiser collectivement au niveau de leur vie quotidienne de manière bien plus efficace que toutes les bureaucraties.
Je vous ai entendu, je vous ai compris, alors maintenant, laissez-moi travailler.
Il y a un moment, il va falloir vous poser des questions. De qu'est-ce que ça implique quand vous débarquez, quand vous envoyez vos agents sur des fermes, qu'est-ce que ça implique? Il va falloir vous poser des questions.
Pas de réponse?
C'est ce qu'on appelle désœuvrer un bureaucrate.
Bonjour.
Un petit peu d'informations, peut-être vous pouvez nous donner des informations que vous avez, vous, dans votre service, quant à savoir le nombre de contrôles effectués par semaine, dans quelle ferme vous décidez d'aller et pourquoi. Est-ce que ces mécanismes-là, par exemple, vous pouvez les expliquer?
Alors, madame, je suis tout à fait disposé à vous donner des réponses aux questions que vous posez, c'est tout à fait normal, les services de l'État transmettent des informations. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, là, immédiatement, vous donner ce genre d'informations, je n'en dispose pas, il faut que je contacte mes services. Je m'engage à vous apporter ces réponses lors d'une prochaine réunion qu'on peut caler immédiatement. Mais je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui.
Mais vos services, ils sont là, on pourrait peut-être aller voir les collègues des services.
Madame, votre interlocuteur, c'est moi. Et ce n'est pas les agents qui sont en poste ici.
Pourquoi vos salariés n'ont pas le droit de discuter avec nous?
Parce qu'ils ont un supérieur hiérarchique qui est moi. Et donc, votre interlocuteur, c'est moi. C'est comme ça, c'est le fonctionnement.
Je peux juste vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Je m'appelle Gilles Fièvre, je suis directeur départemental adjoint de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine.
Donc, qui s'occupe d'organiser les contrôles sur les fermes?
Qui met en œuvre les politiques publiques qui sont aujourd'hui en vigueur, et notamment ce dont vous parlez, c'est-à-dire les contrôles dans les exploitations agricoles. Tout à fait.
C'est aussi pour ça qu'on venait dans vos bureaux aujourd'hui, c'est qu'on voulait avoir des données chiffrées, des contrôles et de leur suite.
Formuler une demande et on y répondra.
On peut la mettre sur papier s'il y a...
C'est exactement ce que je vous demande.
Tout de suite.
Très bien, bah donc nous allons travailler. Ce que je souhaiterais, c'est obtenir un nom et un numéro de téléphone pour qu'on puisse ensuite avoir un échange par rapport à la personne. Très bien, entendu.
Vous allez chercher les chiffres et puis...
Bah écoutez, vous souhaitez rester dans le hall, donc il est quelle heure là? Il est 10h, donc j'ai besoin de temps. Donc est-ce que je peux avoir un numéro de téléphone?
Très bien,
parfait. Merci.
Si vous avez fini.
Bonjour. Bonjour. On discute de la problématique agricole. Et donc, moi, je suis venu dire qu'ici, il y a plein d'incompétents dans les bureaux. Je les connais tous. Ils sont tous venus dans ma ferme. Ils m'ont dit que j'allais disparaître. Ils ont dit qu'ils avaient épinglé un éleveur. Ça, c'est Monsieur Fièvre qui est là, sous-directeur. Il a dit ça. Mais j'étais au procès et puis j'ai gagné. Quand je suis passé au tribunal et que je suis sorti non coupable, ils ont appelé la conf pour dire il faut que Joël retrouve la raison. Qu'ils allaient faire une descente chez moi, que ça allait coûter 3 années de PAC, c'est-à-dire 50 000 euros. Si je ne mettais pas toutes les puces électroniques à mes animaux. Tu gagnes et ils te remettent une pression. Donc moi, ça fait 14 ans que ça dure. Dès que je gagne sur un tableau, ils rattaquent sur l'autre, quoi. Ils ont envoyé des agents pour me dire « Monsieur Joël, vous devez détenir un unique porc enfermé. C'est un nouveau règlement. » Alors moi, je cherche toujours le coupable. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui écrit les règlements quelque part. Mais jamais on m'a cité quelqu'un qui a écrit ce règlement. Alors ils m'ont envoyé 5 courriers, 3 coups de fil, et ils sont venus vérifier si j'avais un unique porc enfermé. Sinon, je devrais être éleveur de porcs industriels. Vous imaginez, le porc est un animal joueur. Donc, il n'a plus le droit de jouer avec ses congénères. Enfermé, il n'a plus le droit de fuir. Donc, vous le stressez. Si vous le stressez, après, vous lui donnez des antibiotiques. Et puis, qui c'est qui mange des antibiotiques? la population. Parce que ces gens-là, ils s'appellent protection de la population. Mais les viandes sont chargées en antibiotiques, pesticides, corticoïdes et tout ça, mais ils ne s'en occupent pas. Ils ne protègent pas la population sur la charge des molécules chimiques qui sont dans les viandes et que les gens consomment. Là, on ne protège pas la population. Tous les scandales qu'on a vus cette année, les scandales sanitaires, les volailles, les machins, c'est des grosses affaires. Et que font ces gens-là par rapport à ces grosses affaires? Par contre, on a emmerdé le petit producteur bio qui a trois porcs. Et donc, la dernière fois qu'ils sont venus chez moi, c'était pour me dire, monsieur Jouel, si je vois encore trois porcs qui ne sont pas enfermés, il n'y aura plus de sommation, c'est procès-verbal direct. Donc voilà comment ils nous causent. Ils poussent les gens à bout. Ils poussent les gens à bout.
On passe à présent à un sujet délicat, le suicide des agriculteurs.
166 suicides par an, un tous les deux jours. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça?
Le taux de suicide est 20% supérieur chez les agriculteurs que dans le reste de la population.
Il est 11h du matin, on est toujours à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Et le directeur va recevoir tous les membres du collectif Hors Normes qui sont venus ce matin dénoncer la gestion par les normes et de la manière dont se passent les contrôles sur les fermes un an après la mort de Jérôme Larose.
Avant d'avoir tous ces chiffres, j'aimerais lire un petit extrait de cette revue là, parce qu'on voit des portraits de Jérôme un peu partout, et histoire de remettre un petit peu donc au goût du jour, parce qu'on n'en a pas trop entendu parler. Donc ça dure une page, hein, recto verso. C'est, voilà.
Je vous en prie, monsieur.
Alors Jérôme s'installe en 2003. Il a 23 ans et hérite d'une ferme respectable d'une cinquantaine d'hectares et autant de vaches allaitantes destinées à faire des petits qui finiront en boucherie.
Il est sorti, le monsieur. Il est parti, ça l'intéresse pas trop.
Bon.
Attends, on va l'attendre quand même.
Vous attendez, c'est un peu pour vous que je lis ce texte.
Je vous en prie, monsieur.
Donc, on reprend pour aller dissiper. Alors, agronome plus qu'éleveur, il entretient ses prairies avec un mélange d'herbes savamment étudiées. Il dévore tout ce qui s'écrit sur la botanique, ne veut utiliser ni engrais ni pesticides, rêve de circuits courts, d'autonomie et d'abattoirs ambulants pour diminuer le stress des animaux. Côté élevage aussi, Jérôme est partisan de l'autonomie des bêtes. Il refuse d'enrichir les coopératives utilisant des granulés préparés par l'industrie agroalimentaire et cultive 7 à 8 hectares de céréales pour nourrir ses propres bêtes.
Il m'écoute pas du tout, hein.
Il trouvait ça injuste que les petits paysans soient soumis aux mêmes règles que les mastodontes de l'agroalimentaire qui brassent des quantités de viande phénoménales. Eux peuvent se permettre d'embaucher des gens pour remplir ces formulaires. Pour le paysan, les papiers, c'est le soir à je ne sais pas quelle heure. Jérôme disait toujours « c'est pas mon métier, ça me fait chier ». Dans son courrier, en forme de testament rédigé au printemps 2017, je le cite « On s'adresse à nous comme à des demeurés qui ne comprendraient rien ou pas à ce qu'on leur demande ». Alors que c'est justement parce qu'on comprend bien où ça nous mène qu'on a du mal à le faire. Aujourd'hui, en agriculture, la pire calamité, c'est pas la sécheresse, c'est pas la grêle, c'est pas le gel, c'est la calamité administrative qui nous pond des textes qui profitent toujours aux mêmes, abscons, contradictoires, contre-productifs, absurdes, qui sont l'antimatière du bon sens paysan. Donc voilà, c'est absolument pas un fou, ni quelqu'un qu'on devrait interner. C'est juste quelqu'un qui a bien compris où ça menait ses contrôles à répétition et ses galères administratives. Voilà.
L'ASPP, Direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations, a réalisé en 2017 190 contrôles au total chez des producteurs fermiers. Un a fait l'objet d'une fermeture. Attendez, s'il vous plaît, je termine, vous notez vos questions et j'y répondrai. Non, madame, non, je refuse. Donc voilà le bilan 2017. Donc la diapo suivante. Le service SRF Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes a fait donc l'objet de 89 contrôles en exploitation agricole ou sur les marchés, les marchés de plein air du département 35. Et un PV a été dressé à l'encontre d'un producteur qui faisait référence à la Bretagne dans son étiquetage sans avoir adhéré à l'IGP. Voilà. Les remarques qui ont été faites en 2017, donc qui a été présentée au préfet, inquiétude des agents qui, en raison de la crise, rencontrent de plus en plus d'éleveurs désabusés et en détresse. À noter qu'en ce début 2018, un retrait de 100 bovins de type laitier et plusieurs élevages en cours de suivi de recommandations pour vendre tout ou partie du cheptel. Voilà. Voilà, donc je pouvais... Attendez, monsieur, s'il vous plaît. C'est pour la clarté de ma présentation. Maintenant, je réponds à vos questions.
Dans une fermeture, il y a un cas, dans l'Ille-et-Vilaine, les services des DCSPP ont mis la pression sur quelqu'un qui était à 2 ans de la retraite, en volaille, parce que le service vétérinaire lui demandait d'acheter un autoclave à 10 000 euros. Tant qu'il n'avait pas acheté cet autoclave à 10 000 euros, il n'avait plus le droit d'exercer. Je le connais personnellement, il était en pleurs, et l'agent des DCSPP n'arrêtait pas de lui dire « Si tu n'achètes pas ton autoclave, on ferme. Et d'ailleurs, on va déjà te mettre une grosse amende. » Donc, de la pression, il a préféré fermer, 2 ans avant la retraite. Et c'est des faits comme ça, je pourrais vous en citer à l'appel.
Monsieur, y a-t-il d'autres questions ? Vous ne pouvez pas répondre, monsieur ?
Je ne peux pas immédiatement vous apporter des réponses, monsieur.
En fait, la mise aux normes que vous demandez, enfin, le coût que ça entraîne, c'est bien trop cher pour les tailles d'exploitation qu'on a. Donc ça veut dire que les normes qui sont là, ça ne permet pas économiquement à toutes les fermes qui sont là de survivre. Donc politiquement, en fait, ce qui se passe avec ces normes et ces politiques agricoles que vous devez appliquer, c'est la disparition de ces fermes-là. Donc vous, comment vous voyez ça ? Vous ne voulez pas répondre à ça. Vous voyez bien qu'un autoclave, le gars, il ne peut pas l'acheter. Donc ça veut dire disparition. On ne peut pas se mettre aux normes. On n'a pas l'argent pour se mettre aux normes.
J'ai accepté de vous donner ces éléments. C'était l'engagement que nous avions.
Vous répondez aux questions aussi.
Oui, aussi. J'ai répondu aux questions.
Ah non, là, vous n'avez pas répondu aux questions. Je suis désolé, vous n'avez pas répondu.
Très bien. Alors, monsieur, j'ai tenu mon engagement. Je vous ai présenté les chiffres. C'était votre demande. Je vous invite par conséquent à quitter les lieux.
J'ai quand même une toute dernière petite question. Est-ce que vous avez compris pourquoi on était là ?
Oui, monsieur.
Est-ce que du coup vous avez compris que désormais le collectif lancerait des appels à des présences collectives dans les fermes au moment des contrôles et qu'on ne laissera plus les sanctions advenir sur les fermes sans réaction de notre part ? On ne laissera plus, comme Jérôme Larronce a pu mener sa bataille tout seul et on est mort, il est hors de question pour nous qu'on soit seul. Quoi.
Monsieur Pierre, en fait, c'est une caméra cachée. Vous êtes élu le meilleur fonctionnaire de l'année.
Merci, c'est gentil.
Moi qui ne trouve rien à dire, à juger ou à compromettre, comment trouve-t-il tant à rire ? À se moquer, à se permettre des mots pour ceux qui n'auront pas de môme. Jérôme. Et puis un jour nous partirons dans un transport original, à voile ou à vapeur au fond de cet humour un peu bancal, sur tous ceux qui n'auront pas de môme. Jérôme. On prendra le chemin bizarre, celui de l'ignorance humaine, loin de tous ces cons sans histoire que cultive pourtant ma haine contre tous ceux qui n'auront pas de môme. Jérôme. Et puis un jour nous partirons dans un univers incroyable et des millions d'enfants riront de ne pas croire cette fable, l'histoire de ceux qui n'auront pas de môme. Jérôme. On aimera tôt ce matin et la vie nous portera drôle une ribambelle de gamins, de marmots se tenant la main Et cette fois, ils seront nos mômes, Jérôme.
Jérôme, chanson en hommage à Jérôme Laronze, mort il y a un an par les ogres de Barbac, et reportage que vous pouvez retrouver sur le site de l'émission, puisque Charlotte avait suivi la veillée en mémoire de Jérôme Laronze dans un reportage diffusé le 9 septembre dernier, que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr.
Et pour en savoir plus sur la manière dont cette gestion par les normes s'est imposée en agriculture, deux ouvrages, Le paysan impossible de Yannick Ogore et Le ménage des champs de Xavier Nouliane, tous deux parus aux éditions du Bout de la Ville, qui expliquent bien comment l'administration est au cœur de nos sociétés ultralibéralisées.
Petite ferme contre agriculture industrielle. Deuxième volet à suivre la semaine prochaine dans Comme un bruit qui court. Mais pendant que Charlotte va dans les champs, pendant ce temps-là, sous la terre, Antoine, aussi la grève prend racine.
Oui, dans les catacombes de Paris, à plus de 20 mètres sous terre. Et plus de 20 000 visiteurs défilent tous les jours place d'Enfer Rochereau dans le 14e arrondissement pour descendre dans les galeries souterraines de l'Ossuaire et déboursent 13 euros ou 29 avec audioguide et coupe-fil qui permet d'éviter des heures d'attente. C'est une belle rente pour Paris Musée, l'établissement public à caractère administratif qui gère les 14 musées municipaux de la ville de Paris. Mais le personnel est monté à la surface et au créneau pour dénoncer les mauvaises conditions de travail. Ils sont en grève illimitée depuis le 3 mai. Le 3 mai, le joli mois de mai, n'est pas terminé.
Objet de tous les fantasmes, refuge pour les hors-la-loi et les marginaux, terrain d'exploration pour les noctambules, en mal de sensations fortes.
Comme un bruit qui court.
Les galeries que vous allez explorer sont parfois sombres.
Sur France Inter.
Prenez le temps d'accoutumer vos yeux à l'obscurité. Et regardez attentivement devant vous.
Catacombes en grève, il y a un drapeau rouge qui est accroché à l'entrée des catacombes, avenue du colonel Henri Roll-Tanguy. Catacombes en grève, on strike.
Pour vous aider à déchiffrer les inscriptions que vous apercevez à intervalles réguliers sur les parois, quelques explications sont nécessaires.
Solidarité, caisse de grève, strike found, solidarity.
Moi c'est Jérôme.
Toi c'est Jérôme.
Ouais. C'est Kamel, enchanté en toi.
Salut.
La température y est fraîche, 14 degrés toute l'année. Veillez à ne pas prendre froid.
Comment ça se passe alors le piquet de grève là?
Donc là c'est le 14e jour. Voilà, aujourd'hui on va faire une conférence de presse tout à l'heure pour expliquer ce qui s'est passé hier lors des négociations avec la direction. Au départ ils voulaient noyer le poisson en faisant une réunion avec des syndicats qui n'étaient pas dans la grève, qui n'appelaient pas au mouvement.
Le voyage que vous allez entreprendre vous mènera de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. Un voyage peuplé de rencontres avec ceux qui ont fait l'histoire des catacombes.
Voici le vestibule des catacombes.
Il passe, tac le tourniquet, ensuite il descend dans l'escalier. Là, on ne peut pas y aller puisque c'est fermé. Et ensuite, vous avez les galeries qui s'étendent et puis...
Et vous avez été formé pour faire ces visites-là? Vous descendez ou vous êtes juste à l'entrée?
Non, on descend. En fait, le travail d'agent d'accueil et de surveillance aux catacombes, il est partagé entre des temps qu'on passe à l'entrée, à la sortie ou en bas dans l'ossuaire. En gros, on se partage le temps. Et donc, comme on a un temps limite par jour, à 4h30 maximum à passer en bas, sachant que ce n'est pas plus de 2h30 d'affilée, voilà, donc on a des pauses, enfin des pas des pauses, mais des relais. Voilà, on passe un certain temps en bas, ensuite on est relayé, on est en haut, à l'entrée ou à la sortie. Ensuite on redescend et ainsi de suite. Quoi.
Bienvenue dans les catacombes de Paris. Savez-vous qu'à la fin du XVIIIe siècle, le pavillon par lequel vous êtes entré marquait les limites de la ville? Au-delà s'étendaient les faubourgs et la campagne. Après avoir descendu 132 marches, vous voici à 20 mètres sous terre. Si vous n'êtes pas familier du sous-sol parisien, sachez que les conduites d'eau potable, les tunnels de métro ou encore les égouts sont situés au-dessus de vous.
Alors Pierre, nous on n'est pas à 20 mètres sous terre là, mais on est à l'entrée où vous avez monté un piquet de grève, hein, c'est ça?
Voilà, là c'est l'entrée, j'ai connu que celle-là et je crois que ça fait longtemps que c'est cette entrée-là. Et donc, ils font des grands travaux là, pour mettre en place une nouvelle entrée plus grande, etc. Je crois que c'est pour l'horizon 2019.
Et sur les autres musées municipaux parisiens, vous avez du soutien alors du personnel, des agents?
Ouais, on a eu des personnels qui sont descendus en manifestation avec nous il y a une semaine et demie de différents musées. On a aussi la crypte archéologique qui est perturbée par un mouvement social aussi un peu comme le nôtre. Eux aussi travaillent d'ailleurs en souterrain et ils réclament la même prime que nous, hein, pour la pénibilité du travail. Donc on est aussi directement en lien avec eux, même si on a moins entendu parler de leur lutte dans les médias. Et puis voilà, sur les différents sites, il y a des problèmes un peu partout avec la gestion de Paris Musée. Donc il y a de la contestation et il y a des personnes qui nous soutiennent activement et qui voient d'un très bon œil ce qu'on fait, quoi.
No, las catacumbas están cerradas a causa de una huelga. La principal reivindicación es que no tenemos suficiente gente trabajando aquí. Eso significa que nuestra seguridad en el trabajo y su seguridad cuando visitan no es la optimal.
Jorge.
Gracias. Bonjour. Yeah. You have tickets, but catacombs is closed today because we are on a strike. If you can come back on Sunday we are open.
Catacombs, histoire de squelettes. Plus audio, ouais, coupe fil. 29 euros quand même, c'est 29 euros là, ouais, 29 le billet.
Euros.
Quoi.
Ouais, ça inclut 13 euros pour l'entrée, 5 euros pour l'audio guide et les restes c'est pour éviter la file d'attente. Simplement, ils payent plus pour rentrer plus rapidement. We open at 10 in the morning.
Et dimanche sera ouvert, c'est ça, de toute façon?
Oui, parce que dimanche, de toute façon, il y a les vacataires qui sont des personnels contractuels de très courte durée. Donc eux, à la fin de sa vacation, il doit être renouvelé. Donc si les gens ils font grève, après, ils ne sont pas sûrs de pouvoir être renouvelés.
Et vous avez travaillé là depuis combien de temps alors?
Et moi, je travaille ici depuis une année et demie. On a commencé en janvier 2017.
Et vous avez été titularisé dernièrement aussi ou pas? Vous êtes vacataire?
Non, là, on a été la première année des stages. Et là, en février 2018, on a été titularisé. Toute l'équipe de soir. Moi, j'ai fait les mêmes choses que mes collègues, et agent d'accueil et surveillance. Donc notre travail, c'est juste faire les plans Vigipirate à l'entrée, gestionner l'accès et surveiller en bas qu'il n'y a pas de problèmes pour les visiteurs. Les informer et éviter qu'ils touchent d'écran surtout. C'est que l'écran ici, ils sont pas séparés dans des vitrines, ils sont juste en contact avec les visiteurs. Donc il y a certains visiteurs qui touchent l'écran ou essayent de prendre des photos avec. Donc nous, notre travail à l'intérieur, un de nos tâches à l'intérieur, c'est éviter que les gens font ça.
Et vous passez des heures en bas, quoi, à plus de 20 mètres sous terre?
Oui, on passe entre 2 et 4 heures et demie en bas.
C'est dur?
Oui, on finit par s'habituer. Mais oui, c'est quand même dur parce qu'on doit descendre et remonter les marches 2 fois par jour. Et il faut passer beaucoup de temps en bas avec un taux d'humidité très haut, et avec de la poussière. Et en condition sous terre. Condition,
Du coup, une des revendications, c'est une prime de pénibilité, c'est ça?
Oui, c'est ça. Une de nos revendications principales, c'est que la prime de pénibilité soit augmentée. Actuellement, elle est à 60 euros. Ça fait des années qu'il n'a pas été augmenté. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la difficulté de notre travail soit reconnue par la direction. Mais de toute façon, ça, ce n'est pas notre revendication principale. La principale, c'est qu'il y a un recrutement des nouveaux personnels. C'est qu'actuellement, on n'est que 10 personnes le matin et 10 personnes le soir, et ce n'est pas assez pour tout le travail qu'on a à accomplir. C'est qu'il faut se rendre compte qu'on a autour de 2000 personnes par jour qui visitent, et on a un parcours d'un kilomètre et demi à surveiller.
Tu veux donner ton prénom ou pas?
Hector.
Hector.
Oui. Licence d'histoire, licence d'anthropologie, et un master en gestion des patrimoines. Donc c'est ça ma formation académique. J'ai beaucoup de diplômes par rapport au travail que j'ai fait. Les diplômes, ce n'est pas une obligation pour ce type de travail. De toute façon, moi, je suis content de mon travail. C'est que déjà, c'est un travail sûr, c'est qu'on est fonctionnaire. Et pas tout le monde peut valider un concours pour entrer dans la fonction publique. Donc, de ce point-là, moi, la même chose que mes collègues, on a beaucoup de sens.
Et c'est quoi votre salaire?
Les salaires, c'est autour de 1500 euros, tous les primes comprises, net.
Un geste de solidarité, s'il vous plaît, avec les grévistes qui ne sont pas payés. Il y a éventuellement des canettes à 1 euro. On est au souk.
Excusez-moi,
croyais que c'est fermé les catacombes ?
Tout à fait, c'est en grève. Depuis le 3 mai.
Depuis le 3 mai, d'accord. Et vous arrêtez quand du coup ?
Bah jusqu'à ce qu'on aura ce qu'on demande.
D'accord, très bien. Bon courage alors.
Merci. Il y a des canettes à 1 euro si vous voulez. Pour payer les grévistes.
D'accord, on va voir avec les amis.
Allez-y.
Catacombes en grève. Nous, personnels des catacombes, sommes mobilisés depuis le 3 mai pour l'amélioration de nos conditions de travail. Nos principales demandes sont le doublement des effectifs. Vous êtes combien en ce moment là ?
Nous, le soir, on est 10. Mais c'est le matin qu'il y a un manque d'effectifs. Et donc, les gens du soir viennent le matin. Au final, c'est des journées de 12 heures.
C'est ouvert jusqu'à quelle heure le soir ?
Jusqu'à 20. Alors, dernier accès, c'est 19h30. Et nous, le temps qu'on fait la fermeture, jusqu'à 20h30.
Et vous, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
Alors, comme l'équipe du soir, nous, ça fait depuis janvier 2017. On a passé le concours, on a fait un an de stage. Et là, en janvier 2018, on est passé titulaire. En fait, on s'est rendu compte, au bout d'un an de stage, qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et là, on s'est tous mobilisés. Bon, en sachant que l'équipe du matin sont très proches de la retraite. Donc, on ne savait pas s'ils allaient suivre le mouvement. Mais ils ont suivi le mouvement et là, ça fait 14e jour de grève et on est à 100% tous les jours.
C'est votre première grève ?
Oui. Oui, c'est ma première grève.
Alors, c'est comment ? La première fois qu'on fait la grève ?
C'est tendu. Franchement, c'est tendu. Les premiers jours, ça a l'air un peu simple, mais il y a énormément de pression et on donne beaucoup de soi. Donc, c'est assez difficile et ça commence à peser beaucoup sur l'équipe. Mais bon.
Alors, on vous emmène quand même des petits pains au chocolat. Il y a du soutien du quartier, c'est ça ?
Oui, il y a du soutien.
Je dois dire une chose. Que ce musée est géré comme on gère une soupirette, malheureusement.
Une supérette ?
Une supérette, oui, exact. On n'est pas dans un établissement vraiment public. Et c'est malheureux, cette désorganisation. Et le manque des moyens, surtout. C'est vraiment, on est oublié, en fait. Il n'y a pas de cafetière. Pour faire un café, c'est nous, les agents, qui achetons notre propre cafetière. On a pleuré pour qu'ils nous ramènent 10 chaises, des tabourets et les micro-ondes. Il faut toujours taper sur la table pour avoir quelque chose. Et c'est toujours, on nous ramène quelque chose qui vient de carnavalet, quoi.
Ils vous redonnent les vieux trucs du musée carnavalet, c'est ça ?
Tout à fait.
Mais c'est normal parce que vous, comme vous êtes 26 mètres sous terre, on ne vous entend pas. Hein.
Bah non.
Alors vous êtes remonté à la surface et là vous faites piquet de grève.
Bah là on va parler très haut.
Sur la place d'Enfer Rochereau, quoi, hein, c'est ça ? Avec les drapeaux.
Et hier aussi, hein, on a fait une manif. On est dans la rue, on est dans les manifs aussi pour être solidaires avec nos camarades cheminots et d'autres. Tous les fonctionnaires. Il faut que ça tienne debout.
Et vous serez dans la marée populaire alors, samedi justement, ce samedi ?
Certainement, dans les premiers rangs.
Dans les premiers rangs ?
Tout à fait.
Dans le cortège de tête, quoi ?
Tout à fait, oui. Trop de couleurs. Ça fait déjà des années que ça dure. Et on a vraiment envie que ça change. Il faut que ça change.
Dans les ans de tous les chaînements, temps passé de nous conditionner. Tant de temps passé présentement, passe tous les désenchantés. Vent de foule et des chants de la houle, loin tu roules dans les cris de la foule. Prends le temps, la musique et le chant, l'élan du temps des changements. Rends la servitude aux habitudes, aux turpitudes des solitudes. Prends les tourbillons des émotions aux floraisons de nos passions. Rends les amertumes fruits des rancunes aux joies posthumes qui perdent plume. Prends dame rebelle, va de plus belle, attire d'elle l'histoire appelle. La beauté du geste saisie dans l'instant, le temps déchine et tire l'ire sans machine. La beauté du monde se danse des ondes, dans tout frisson d'art le cœur abonde. Pour la beauté du geste il y a l'art des rimes, sans l'algorithme et l'aval de chacun son rime. Dans la beauté du monde il y a ses visages, tant de paysages vont de passage. Vent de foule et des chants de la houle, loin du roule dans les cris de la foule. Prends le temps, la musique et le chant, l'élan du temps des changements.
Bonjour. vous êtes en grève aussi?
Ouais, moi je suis à la SNCF.
D'accord. Cheminote?
Yes.
Vous êtes venu soutenir les agents des catacombes?
C'est plus que soutenir, c'est dire que déjà, bon, on soutient, mais on fait partie, tous autant qu'on est. Je veux dire, que ce soit à la poste, que ce soit à la santé, que ce soit sur le rail, que ce soit à l'éducation. Je veux dire, c'est le même mouvement partout, c'est la même contestation partout. Il y en a marre. Plus ça va, moins on a de moyens, plus on nous demande de choses. Aujourd'hui, ma boîte, on la démonte, c'est un fait, mais au-delà du démontage de ma boîte, la SNCF, on va priver des millions de personnes de leurs moyens de transport. Ou alors, on va leur donner, mais un prix qui est 4 fois plus cher que ce qu'il y a actuellement. On le voit à la poste ce que ça donne aujourd'hui. On a vu chez EDF, GDF, ça n'a pas fonctionné non plus. La concurrence, c'est la merde. Je suis désolée pour mon langage. Donc voilà, on ne peut pas dire... Aujourd'hui, les catacombes, c'est une part en plus du patrimoine français, du patrimoine parisien. On ne peut pas dire, on laisse travailler les gens dans la mer, dans des conditions pas possibles, et puis on construit une belle entrée en face, où on va dire aux touristes, regardez comment c'est beau, comment c'est moderne, dehors. Mais allez dedans, allez voir comment c'est dedans, allez voir comment ils travaillent, les gars, et vous allez comprendre. Donc voilà, normal. Ils se révoltent, c'est normal.
Et voilà. Samedi, vous serez dans la rue le 26.
Cortège de tête.
Parce que la colère est trop grande, quoi, c'est ça ?
En fait, je parle à titre personnel. Le 22, j'étais à la manif, fonction publique, où on s'est fait charger, gazer, nous envoyer leur petit truc là dans les pattes, là, qui fait bien mal quand tu le prends dans les genoux. Ils ont tabassé des gens arbitrairement. Et il y a eu une espèce de prise de conscience des gens qui étaient venus manifester pacifiquement, des gens de la fonction publique, des gamins, des vieux, qui sont levés d'un seul homme et qui ont dit maintenant ça suffit et qui ont avancé. Et si nous, ceux qui étaient là le 22, qui se sont fait gazer, canarder pour rien, si on reste tranquillement derrière nos petites voitures, boum boum, chacun dans son coin en disant je suis pas content, ça avancera jamais. Donc la seule solution aujourd'hui c'est quoi? C'est le cortège de tête. C'est être devant, mettre devant toutes les revendications de tout le monde. S'il faut aller au contact, on ira au contact. C'est dommage, mais c'est comme ça. S'il faut se faire entendre, on le fera.
Aujourd'hui, 24 mai, nous avons enfin pu...
Voilà, c'est la conférence de presse qui était annoncée à 15h, là, devant le piquet de grève là, de l'entrée des catacombes. Mmh. Et on est deux, là, pour l'instant. Hein. Les médias sont représentés par vous, la tribune des travailleurs, et nous, comme un bruit qui court, quoi. Voilà.
C'est ça. Aujourd'hui, 24 mai, nous avons enfin pu entamer de véritables négociations avec la direction. Elle a, pour la première fois, avancé des réponses concrètes et chiffrées à nos revendications. Cela intervient juste après notre boycott de la réunion d'hier. Paris Musée a donc été contraint d'écouter nos revendications dans un cadre légal, avec, assis à la table, uniquement les représentants légitimes des grévistes comme nous le demandions. Malheureusement, les propositions de la direction sont loin d'être satisfaisantes. La direction commence à lâcher du lest. On l'encourage encore à faire un petit effort, car il nous... Oh merde, Attends, je vais le faire autrement. Parce que les virgules sont importantes. La direction commence à lâcher du lest. On l'encourage. Encore un petit effort, car il va nous falloir des réponses plus sérieuses. En attendant, nous restons tous unis, solidaires. Et le musée continuera à être fermé tant que nous n'aurons pas de réponses sérieuses.
Donc voilà, on attend juste de leur part qu'ils considèrent nos revendications et qu'ils fassent au moins l'effort, qu'une personne de la direction fasse l'effort un jour de venir aux catacombes et de descendre en bas, voir dans quelle situation on travaille. Et à l'heure, moi ça fait un an et demi que je suis là, il n'y a aucune personne de la direction qui est venue une seule fois et qui est descendue, ce qui n'est pas normal.
Et il y a une soirée de soutien aux grévistes des catacombes à Paris. C'est à partir de 20h à l'EHESS occupé au 96 boulevard de Raspail.
C'était Comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les références et abonnez-vous au podcast sur le site franceinter.fr. Laissez-nous des messages sur les réseaux sociaux. Maudies Comme un bruit. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.